Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant dans mon fonctionnement adolescent. C'est ce besoin d'autonomie.
Une position de défiance vis-à-vis de l'autorité.
Quand on sent que les jeunes arrivent à trouver un petit peu une identité qui leur est propre.
Cette période d'apprentissage, elle est éprouvante. Je crois que c'est le mot. Mais elle est extrêmement enrichissante.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Merci.
Alors Stéphane, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Écoutez, je suis le parent de 3 adolescents, post-adolescents et pré-adolescents. Une fille, 20 ans, un garçon, 18 ans, et un dernier garçon, 14 ans. Et parfois, je suis un peu démuni face à leur comportement ou leur questionnement ou leur inquiétude. Et je n'ai pas toujours les réponses adéquates.
D'accord. Comment d'abord vous vivez, alors vous dites vous avez 3 enfants qui ont des âges un peu différents, votre aîné donc qui est passé par ce temps de l'adolescence, comment vous avez vécu cette découverte de l'adolescence avec votre aîné ?
Découverte très facile de l'adolescence, une jeune fille studieuse, très respectueuse des règles, et donc je n'ai pas, c'est une adolescence sans difficulté, c'est-à-dire que je n'ai pas vu de signes particuliers surgir, bien sûr un détachement progressif, des questionnements, mais pas de confrontation ou pas ce qui est souvent caractérisé comme la crise d'adolescence, pas de phénomène de crise d'adolescence provoquant une rupture ou un questionnement. Et c'est avec le deuxième garçon, Mathieu, que là, j'ai pu expérimenter ce qu'était la crise d'adolescence.
Oui, comment ça s'est manifesté pour Mathieu ?
Ça s'est manifesté par une position de défiance vis-à-vis de l'autorité, le fait qu'il grandissait, qu'il était à même de pouvoir répondre, de pouvoir argumenter, et qu'il ne se plierait plus tout d'un coup à la volonté paternelle, mais qu'il fallait le conduire sur un chemin et pas simplement en termes d'obéissance. Et donc ça a parfois été des moments difficiles.
Difficiles comme quoi par exemple ?
C'est un moment difficile parce que, j'allais dire, et pour le père que je suis et pour l'adolescent, pour le père que je suis parce que j'ai été confronté tout de suite à mes propres contradictions, à mes propres défauts, au fait que je perdais peut-être la qualité de père parfait ou en tout cas de l'image paternelle. Et Mathieu parce qu'il se cherchait. Et en se cherchant, eh bien, il pouvait se fâcher, provoquer des crises, aller à la confrontation, tester. Et donc, un enfant qui teste, bien, c'est un enfant qui teste le fait de claquer la porte et de partir, qui teste les choses de la vie, qui découvre l'amour, qui teste la cigarette, peut-être un peu plus que la cigarette. C'est un enfant qui teste et qui vous confie ou qui vous confie pas les difficultés qu'il rencontre.
Est-ce que Mathieu a été plutôt un adolescent à se confier ou inversement à pas se confier ?
Plutôt un adolescent à pas se confier. Plutôt un adolescent à
Comment
pas se confier.
Vous, vous avez vécu ça, Stéphane ?
C'est difficile, un adolescent qui se confie pas, parce que, en qualité de père, j'allais chercher en permanence, j'allais quérir l'information. Et quand vous n'avez pas l'information en retour, eh bien, vous basez sur des signes ou des signaux de son entourage, de ses amis, du fait qu'il puisse avoir un mal-être, du fait que des signaux liés à la vie, son sommeil, son alimentation. Et parfois, au cours d'un échange de la vie quotidienne, eh bien, on trouve un point d'entrée qui permet de discuter de lui, et pas de sujet général sur lequel Mathieu me testait beaucoup, de la politique, la religion, l'amour, enfin des sujets génériques qui lui permettaient pas de se livrer aussi profondément que j'aurais pu le souhaiter.
Quelles ressources vous avez développées pour entrer en contact avec Mathieu qui ne se livrait pas?
Je crois que la meilleure des ressources, c'est de passer du temps. Du temps et du temps de qualité. J'ai pas réussi à développer avec Mathieu une activité qui aurait pu éventuellement nous rapprocher, en tout cas dans le fait de faire cette activité, mais c'est essayer de passer du temps autour d'un loisir, autour d'un centre d'intérêt pour lui, car je crois que ça le permettait de se concentrer et peut-être de se lâcher un peu, en tout cas de lâcher prise, et du coup de se livrer à l'issue ou pendant le fait qu'on avait un centre d'intérêt commun. Et donc, en tout cas, me concernant, ça a été le temps. Voilà, le temps et l'écoute.
Est-ce que ça a été facile pour vous de développer ce temps et cette écoute ?
Non, c'est pas quelque chose de facile, parce que c'est un apprentissage. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que je retiens de toute cette période. Hein. C'est une période d'expérience, expérience sur soi extrêmement forte.
Donc que ça soit pour l'adolescent, mais aussi pour le parent.
Ou pour le parent, puisqu'on se découvre, on se projette aussi. Je me souviens de mon adolescence, je me souviens des relations avec mes parents, en tout cas au cours de mon adolescence. Je me souviens à quel point je luttais contre toutes les théories et que, sur mon caractère unique, exceptionnel, en qualité d'adolescent. Et c'est arriver à dépasser cela en tant que père pour arriver à être directement en contact avec Mathieu. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas encore toujours facile. Il n'y a pas un début et une fin. C'est un phénomène progressif. C'est-à-dire qu'on rentre progressivement dans cette phase de, détachement ou d'autonomie de la personnalité, de sa propre évolution. C'est une phase qui se fait en transition. On sent tout d'un coup une rupture brutale dans les rapports, mais les signes étaient déjà là avant. Ça évolue. Pour les prochains adolescents, je serai prêt. Je pense qu'il faudrait une période d'apprentissage.
Votre dernier, vous disiez, à 14 ans. Est-ce que pour vous, il est dans l'adolescence ?
Étienne est en phase de préadolescence. C'est-à-dire qu'il y a tous les signaux auxquels je suis maintenant plus attentif.
Quels sont ces signaux pour vous ?
Je ne voudrais pas généraliser en disant un peu rébellion, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que je désire être autonome par rapport à ce que me dit mon père. Et j'entends ou j'écoute ce qu'il me dit, mais je souhaite me faire ma propre opinion et puis j'ai mon propre chemin. Et donc,
vous avez un exemple, peut-être dans ces jours-ci, comment Étienne a pu manifester ça ?
Eh bien, Étienne reste un enfant, comme Mathieu reste un enfant. Il n'empêche que quand je demande à ce que quelque chose soit fait, l'obéissance n'est pas nécessairement la spontanéité. C'est-à-dire qu'ils vont finir, ou non, par obéir. Mais ils vont commencer, pas partir non nécessairement, mais soit comprendre les raisons, soit dire non, parce que c'est pas leur envie. C'est un mot qui revient beaucoup, non, c'est pas mon envie, c'est pas mon désir, c'est pas ce que je veux. Soit ils vont vouloir une prise de position, de décision argumentée. On va à tel endroit, mais pourquoi faire, dans quelles circonstances, mais j'en ai pas envie, et éventuellement trouver un autre chemin, en disant, écoute, c'est très bien, tu veux aller voir tel film, mais non, mais moi j'en ai pas envie, de toute façon, je devais rester à la maison, ça sert à rien que je t'accompagne, puisque de toute façon, à ton retour, je serai toujours là, donc voilà. C'est des petites choses, du quotidien, qui sont des petits affrontements.
Oui, j'entends que tout peut être rapidement sujet de négociation, de confrontation, de tension, de conflit, voire de désaccord.
Oui, en fait, j'aime bien ce mot désaccord, c'est ça, c'est apprendre à vivre son désaccord. C'est apprendre que, voilà, on peut être en colère, et ils peuvent être en colère contre moi, et pour autant...
Qu'est-ce que ça vous fait quand ils sont en colère contre vous ?
Je pense que j'ai grandi aussi en même temps qu'eux par rapport à cela, parce qu'on expérimente ça. Au départ, j'étais très touché quand vous avez vos enfants qui sont capables de vous dire des choses parfois dures, parfois pleines de bon sens, ou même parfois vraies, sur une vérité qu'on n'a pas nécessairement envie, qu'on nous assène facilement, parce que dans le quotidien, chacun emploie des filtres. L'adolescent, en tout cas mes adolescents, ils n'emploient pas de filtres quand ils ont quelque chose à dire. Ils le disent spontanément, sans filtre. Entre le début de leur crise d'adolescence et aujourd'hui, j'ai changé parce que j'ai mis un peu de vernis ou de recul pour justement m'emballer un peu moins vite, voir que c'était simplement des signes qui étaient liés à leur propre expérimentation et c'était pas nécessairement moi qui étais mis en cause. Mais ça prend du temps. Et je suis pas toujours extrêmement lucide dans les réactions parce que le quotidien, on n'est pas toujours ni alerte, ni en réflexion par rapport à ça. Et parfois, ça part très vite. La spontanéité fait que parfois, on n'a pas nécessairement la bonne réaction.
Donc, l'importance que ça peut avoir parfois de prendre du recul, se donner un temps pour souffler et puis pour pouvoir observer ce qui se passe, pour pouvoir donner du sens et comprendre.
Exactement, et puis pouvoir revenir dessus. Les adolescents, la grosse différence, j'allais dire, de la petite enfance, tant Mathieu que Étienne, on peut revenir sur un sujet. Alors, pas trois semaines après, mais on peut revenir sur un sujet. Et c'est agréable de revenir sur un sujet de façon un peu plus posée qu'on l'a été sur le moment où on n'a pas toujours la bonne réaction. Et ça, je crois que c'est aussi autre chose que j'ai appris, c'est... Plein de fois, je me suis trompé dans la façon dont j'ai réagi, mais c'est ça mon expérience de père d'adolescent. C'est que je me suis trompé et face aux adolescents qui voient que je ne suis plus un père parfait, on a le droit de se tromper. Et on a le droit de revenir sur ses erreurs et d'en parler quand ils sont dans l'optique d'en parler. Parce que parfois, sur certains sujets, ils se ferment. Et là, pour le coup, c'est très difficile. C'est très difficile.
Vous vous souvenez d'une fois où vous vous êtes trompé?
Ça ne me revient pas spontanément comme ça. Le reconnaître et l'illustrer, c'est différent. Voilà, je me souviens de ne pas avoir eu des bonnes réactions.
Vous énervez vite.
Voilà, de s'énerver vite. En tout cas, j'ai voulu faire preuve coûte que coûte d'autorité. L'enjeu, il est par la parole, par le lien que l'on a, par le respect. Mais il n'est plus par... par exemple, la force n'est du tout un argument, ou la démonstration de la force n'est plus un argument. C'est pas un enfant de 2 ans qu'on peut soulever et poser dans un autre endroit. Et ça, c'est aussi un sacré apprentissage. On aurait bien envie d'entendre être Hulk.
Là, vous parlez de vos difficultés en tant que père. Est-ce que pour la mère aussi de vos adolescents, ça a pu être difficile? Alors, vous disiez d'ailleurs, votre aînée, c'est une fille. Voilà, pour vous, en tout cas, de son caractère, de sa personnalité, les choses se sont très bien passées. Mais est-ce que pour sa mère, ce moment-là a pu être... Vous dites, vous, que vos difficultés sont liées à vos deux garçons. Voilà, qu'est-ce qu'il en a été pour
alors,
leur mère ?
Je crois que Julie et sa mère, je pense qu'elle a été, on en a déjà parlé, dans la même ressenti ou dans la même facilité. Pour leur mère, ça n'a pas été simple non plus. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, elle l'a vécu avec un phénomène supplémentaire que maîtrise parfaitement bien... Alors, je ne sais pas tous les adolescents, mais c'est les dissensions potentielles qui existent au sein des parents et jouer sur les différences, les appréciations différentes et savoir aussi jongler, creuser les écarts qui existent dans la façon de voir les choses. Et donc, c'est doublement difficile pour la mère, mais comme pour le père. Il y a l'expérience, j'allais dire, personnelle et puis l'expérience du couple. C'est une tension pour le couple, l'adolescence des enfants.
Vous avez eu le sentiment, donc là vous dites voilà, que ça a été difficile pour chacun des parents, père et mère, mais que aussi vos garçons adolescents, voilà, les dissensions qu'il pouvait y avoir au sein du couple parental, voilà, ils pouvaient s'engouffrer ou aller appuyer justement sur ce qu'ils pouvaient percevoir et que c'était une difficulté en tant que couple parental.
Oui, tout à fait, je confirme.
Est-ce qu'il y a eu des bons côtés aussi pour vous dans...
Alors, il y en a plein de bons côtés. Mm-hmm. C'est-à-dire que cette période d'apprentissage, elle est éprouvante. Je crois que c'est le mot. Mais elle est extrêmement enrichissante. On noue des liens totalement différents avec ces enfants, qui se renforcent avec une autonomie, avec une affection et un amour qui prend des formes différentes et que je trouve extrêmement plaisant. C'est extraordinaire de les voir évoluer. On sent les traits de la personnalité, mais tout d'un coup, c'est comme si ça s'incarnait. Ça s'incarnait de façon totalement autonome et on les voit évoluer. Et c'est une grande fierté que de les voir prendre leur chemin. C'est une période extrêmement enrichissante pour soi. Je n'ai jamais autant appris que par l'adolescence de mes enfants. Je n'ai jamais autant, en tout cas sur moi, je n'ai jamais autant appris que sur l'adolescence de mes enfants. Et puis, j'allais dire, je ne sais pas si c'est étonnant ou si c'est bien fait. Quand vos enfants ont l'adolescence, en tout cas pour moi, c'était une période où voilà, vous atteignez 45, 50 ans. On parle d'une crise aussi liée à ça. Souvent, mes enfants me disent, toi, t'as la chance, tu fais une crise d'adolescence avec la carte bleue. Et c'est vrai que c'est une période aussi, en tout cas en tant que père, où on peut avoir des doutes, des questionnements, remettre en cause les choses. Et donc, ça peut amplifier les phénomènes de crise. Ou parfois, au contraire, prendre un peu plus de recul pour calmer les choses.
Ok, merci Stéphane. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne notre experte, Garance Bellamiche.
D'accord, avec plaisir.
Bonjour Garance Bellamiche, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, vous travaillez au sein du pôle adolescent de la clinique Villa des Pages au Vésinet, dans les Yvelines. Donc vous venez d'écouter le témoignage de Stéphane, donc qui est père de trois enfants de 20 ans, 18 ans et 14 ans, qui voilà, nous a fait part de son expérience de l'adolescence. Garance, quand on parle d'adolescence, de quel âge on parle ?
Alors bonjour Mathilde, bonjour Stéphane. Alors, définir l'adolescence, c'est bien compliqué. Hein. Souvent, on l'associe un peu à l'âge pubertaire, hein, avec l'apparition des règles chez les filles et puis des caractères sexuels secondaires chez les garçons. Mais je dirais que l'adolescence, elle s'étend bien au-delà et puis qu'elle est aussi différente en fonction des individus, des âges et puis des cultures. Hein. Au sens, je dirais, plus social et psychologique, elle s'étend bien au-delà de cet âge pubertaire.
C'est d'ailleurs un peu ce que nous a dit Stéphane en disant voilà, qu'il y avait vraiment une continuité et que pour lui, il n'y avait pas vraiment de frontières. Voilà.
Alors, ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, Stéphane, c'est qu'un jour, il se réveille tout d'un coup. Là, on voit un adolescent du jour au lendemain, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et la fin est plus progressive, en effet. Hein. Néanmoins, peut-être qu'il y a certains indicateurs qui peuvent marquer un petit peu la fin de ce processus. Alors c'est pas exhaustif, mais je peux vous en citer 2-3, notamment l'apaisement des relations au sein de la famille. Hein, quand on sent que les choses peuvent un petit peu s'apaiser, quand il y a moins de tensions, quand il y a moins de désaccords, quand le compromis est plus facilement envisagé. Il y a aussi quand on sent que les jeunes arrivent à trouver un petit peu une identité qui leur est propre. Hein, ça, on sent que c'est un petit peu le début de l'âge adulte. Et puis alors, il y a certains spécialistes qui disent que pour certains, ça se termine quand eux-mêmes deviennent parents. En tout cas, peut-être ce qu'on peut préciser, puis vraiment en écho à ce que vous disiez, Stéphane, c'est que à cet âge, durant cette période, l'adolescent, il est vraiment confronté à quelque chose qui fait conflit, un espèce de tiraillement que vous avez bien identifié, en tout cas pour une certaine partie, c'est le besoin d'autonomie. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant dans mon fonctionnement adolescent. C'est ce besoin d'autonomie, mais qui va s'entrechoquer avec quand même encore un besoin de dépendance, notamment financière. Hein. Et c'est ça qui va faire conflit en permanence à la période d'adolescence. C'est que l'adolescent va être tiraillé entre l'envie de construire sa vie tout seul, tranquille, mais en même temps, financièrement, affectivement, socialement, il a encore besoin de ses parents. Et c'est ça qui va vraiment créer principalement ce conflit à l'adolescence.
J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que pour illustrer l'enjeu autonomie argent de poche, en tout cas la volonté d'avoir un argent de poche et de pouvoir faire ses dépenses tout en sachant que l'argent qu'ils obtiennent vient des parents, c'est aussi un véritable enjeu de pouvoir utiliser librement et d'essayer d'avoir une fausse autonomie financière alors qu'effectivement ils dépendent financièrement, en tout cas pour mes enfants, ils dépendent financièrement de nous.
Donc là, Garance, vous nous dites donc que ce qui caractérise cette période de l'adolescence, c'est ce processus d'autonomisation qu'acquiert l'adolescent entre l'enfance et l'âge adulte. Cette crise d'adolescence, est-ce qu'elle peut se manifester d'autres manières? En tout cas, Stéphane nous disait que pour sa fille aînée, Julie, voilà, tout s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de crise. Voilà, pour les garçons Mathieu et Étienne, voilà, il y a eu et il y a encore aujourd'hui ce moment de crise. Quelle autre forme voilà, ça peut prendre, cette crise d'adolescence?
Alors, peut-être il y a plusieurs choses à préciser. C'est que déjà, il est souvent difficile de différencier la crise, ce qu'on appelle la crise d'adolescence assez classique, mais qui peut être aussi très bruyante, hein, de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un fonctionnement plus inquiétant et qui doit alerter. Néanmoins, il y a peut-être plusieurs signes que vous avez aussi très bien décrit, Stéphane, qui caractérisent vraiment ce processus de la crise adolescente. Donc c'est d'abord le besoin de certitude. Hein. Vous disiez, ils ont besoin d'avoir des réponses claires, justifiées. Ce sont les meilleurs négociateurs, les adolescents. Hein. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux en la matière. Donc le besoin de certitude, ils sont convaincus d'avoir raison. Mais parce qu'ils vivent un moment à l'intérieur d'eux, tellement d'incertitudes, tellement de bouleversements, tellement de questionnements qu'ils ont besoin à l'extérieur d'avoir des réponses claires, nettes et précises et de sentir qu'il y a quelque chose qui tient. Il y a aussi le besoin de se sentir maître de sa propre existence pour se construire une identité propre. Alors on va peut-être le développer après, mais l'adolescent, il est confronté à plusieurs chantiers, deux principalement, qui va faire qu'il va avoir besoin de reprendre quelque part une part active à l'extérieur, par rapport à ce qu'il vit, lui, à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire qu'il est soumis à des bouleversements hormonaux, corporels, psychologiques, tels qu'à l'intérieur de lui, c'est une vraie usine en court-circuit, qui peut être vécue de façon assez chaotique à l'intérieur. Et du coup, pour faire face à ce sentiment d'impuissance qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur d'eux, ils vont avoir besoin de maîtriser et d'être un peu tout-puissants à l'extérieur. Hein. Et puis, il y a aussi ce besoin de provoquer, de transgresser, que vous avez un petit peu évoqué, qui a une fonction aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la transgression des interdits à l'adolescence, qu'on a souvent tendance à penser comme un besoin de transgresser pour un besoin de transgresser, mais ce besoin de transgresser, il a un sens. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que va chercher principalement l'adolescent? C'est à trouver des limites contenantes et rassurantes pour pouvoir grandir. Et le but de la transgression, c'est justement de les trouver. Alors, en tant que parent, justement, tout l'enjeu de la réponse parentale, vous disiez tout à l'heure, Stéphane, j'ai appris peut-être à différer un petit peu, à prendre un petit peu de recul, à pas forcément répondre dans l'impulsivité ou dans quelque chose qui serait trop ferme et trop strict, qui ferme le dialogue à ce moment-là et qui ne permet plus d'échange avec l'adolescent. C'est vraiment un apprentissage aussi pour le parent, cette question-là. Mais le besoin de provoquer et de transgresser a pour but vraiment pour l'adolescent de trouver des limites rassurantes et structurantes. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien certains adolescents qui peinent à en trouver, qui vont aller parfois les chercher ailleurs. Hein. Ou en tout cas, qui vont transgresser jusqu'à temps qu'ils en trouvent.
J'ai souvent l'impression, avec Mathieu et avec Étienne, qu'ils viennent au contact. C'est exactement ça. Ils viennent au contact, mais sur tous les sujets. En confrontation, mais au contact, sur l'affectif, sur une volonté de rentrer en contact, de toucher le mur, de toucher les limites. Et c'est quelque chose qui se fait de façon... c'est concrète. Hein. C'est des signes parfois très forts d'attraction, de câlin, mais c'est aussi des signes très forts de répulsion où l'adolescent est capable de vouloir pousser, par exemple. C'est pas le même signe, c'est des signes inverses, mais qui sont physiques, cette volonté de contact.
Donc là, ça m'évoque ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, sur les signaux que vous avez appris à décoder pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer pour chacun de vos ados. Garance, voilà, quelles peuvent être ces manifestations un peu visibles, voilà, que les parents d'adolescents qui nous écoutent, voilà, quels peuvent être les signes qui peuvent, auxquels ils doivent faire attention ou être vigilants pour se dire, bon ben voilà, ça c'est le signe de la crise adolescence.
Alors peut-être avant d'évoquer ça, juste un petit mot sur quand même les chantiers auxquels est confronté l'adolescent. Parce que je pense que c'est important de comprendre ce qu'il vit pour comprendre ce qu'il montre. L'adolescent est confronté à deux chantiers principaux. D'abord, c'est faire avec un nouveau corps qui est étranger, c'est-à-dire qui se réveille un matin avec l'avènement de la puberté, l'avènement de la sexualisation du corps et puis de tout ce qui vient émerger, il va se retrouver avec un corps qui devient étranger à lui-même. Il va être confronté à tout un tas de questions par rapport à ça, qu'on pourrait un peu formuler ainsi. Comment entrer en contact physique avec l'autre? Alors vous décrivez bien, Stéphane, soit un rapprochement immédiat et très demandeur, soit au contraire une mise à distance très importante. Comment regarder l'autre? Comment être regardé? C'est d'ailleurs intéressant d'observer un petit peu comment l'adolescent va mettre en avant ou pas son corps, hein, comment il va utiliser son corps, puisque le corps est vraiment le moyen d'expression prépondérant à l'adolescence. Est-ce qu'il va être caché? Est-ce qu'il va être montré? Est-ce qu'il va être tatoué? Est-ce qu'il va être percé? Est-ce qu'il va être attaqué? Ou au contraire, est-ce qu'il va être plutôt choyé, mis en valeur, enlaidi ou pas? Est-ce qu'il va être différencié? Ou est-ce qu'au contraire, ça, il va se fondre dans un espèce de bain culturel adolescent avec un uniforme adolescent? Voilà, ça, c'est des éléments qui peuvent quand même donner quelques indications sur le rapport au corps de l'adolescent.
Stéphane, est-ce que vous avez observé des changements par rapport, voilà, à ce que nous dit Garance là, du corps, du traitement du corps, du rapport au corps chez vos adolescents?
Oui. Alors je ne sais pas si je pourrais séquencer, mais j'allais dire qu'il passe un peu par toutes les phases. C'est-à-dire qu'il passe par des phases où c'est vrai que on appelle ça l'ingratitude, où le corps est un peu plus ingrat et où ils sont quand même pas très contents de peut-être de l'image qu'ils ont. Et puis quand ça passe, eh bien ils peuvent s'intéresser au contraire à l'embellir. Donc je vois bien les axes concrets du quotidien à travers ce que dit Garance. Il n'y a pas une chose qui caractérise en disant voilà, ils s'enlaidissent ou ils s'embellissent. Non, bah, ils passent un peu partout, ils se testent.
Garance, quel est le deuxième chantier dont vous vouliez nous parler?
Alors c'est un chantier que vous avez également évoqué, c'est l'autonomisation face aux figures parentales, hein, puisque tout l'enjeu de cette période, c'est de devenir adulte. Donc l'adolescent, il va être confronté à ce moment-là à un certain nombre de renoncements et de séparations. Donc le renoncement déjà de son corps d'enfant, de la période de l'enfance qui se termine, mais aussi de certaines modalités relationnelles qu'on peut avoir dans l'enfance, mais qu'on peut plus avoir à l'adolescence, hein, par exemple, s'asseoir sur les genoux de papa quand on est une jeune fille, c'est plus compliqué que quand on est une petite fille. Donc, face à ça, l'adolescent, il va avoir besoin de se différencier. Et comment il va se différencier? Ça va passer par la mise à distance, par le rejet, par parfois la volonté de se sentir différent de ses parents, puisqu'il a besoin de s'en détacher pour se construire sa personnalité d'adulte. Et c'est à ce moment-là où on va observer certains mouvements d'identification à son groupe de pairs. Hein. C'est-à-dire que l'adolescent va rejeter en bloc tout d'un coup, les parents deviennent ringards, les parents ont des tenues absolument catastrophiques, soumis à un certain nombre de critiques. Mais tout ça, ça fait partie du processus d'autonomisation. Il faut pouvoir désidéaliser le parent pour pouvoir s'en séparer, pour pouvoir progressivement, voilà, se construire son identité.
Donc là, vous évoquiez ces manifestations un peu visibles à travers le rejet, par exemple. Est-ce que, voilà, il y a d'autres manifestations visibles, Garance?
Il y en a plein. Alors, ça concerne pas forcément tous les adolescents. Tous les adolescents n'ont pas toutes ces manifestations-là, mais en tout cas, on peut retrouver certaines manifestations chez plusieurs adolescents.
En tout cas, là, je pense aux parents d'adolescents que je peux recevoir dans mon cabinet. C'est souvent, ils décrivent des adolescents un peu dépressifs, déprimés, avachis sur le canapé toute la journée. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, ça?
Alors, ce que vous décrivez, Mathilde, c'est typique du processus adolescent. C'est-à-dire que confronté à toutes ces séparations et ces renoncements de l'adolescent, va entraîner une sorte d'humeur un peu dépressive, ce qu'on appelle, nous, la dépressivité. C'est-à-dire que ce serait une certaine forme de dépression, mais avec tous les symptômes bien amoindris. Hein. Ça va être la motivation, en un mot. La motivation, le fait qu'ils sont jamais partants pour rien, qu'ils s'ennuient, cette espèce de vague à l'âme adolescent que décrivent certains parents, cette espèce aussi de tenue corporelle aussi, où ils s'avachissent dans le canapé, où ils s'avachissent sur la table, voilà. Alors ça vient montrer quoi ? Ça vient montrer justement que l'adolescent, il est triste, parce qu'il est en train de renoncer à certaines choses. Après, il y a d'autres signes qu'on peut décrire à cet âge-là.
Juste pour revenir sur cette tristesse, parce que moi, les parents que j'entends, que j'accompagne, c'est quelque chose qui peut être très inquiétant pour eux. Je ne sais pas si ça a été le cas peut-être pour vous, Stéphane.
C'est très inquiétant parce qu'on a la sensation qu'il n'y a pas de limite. En tant que père, on souhaite protéger ses enfants, et tout d'un coup, il y a une tristesse intérieure, sans explication, sans nécessairement verbalisation, qu'on ne comprend pas. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'une des manifestations, les propos de Carence me faisaient sourire, parce que c'est vrai que le lit, par exemple, c'est un endroit qui devient une sorte de sanctuaire, pas nécessairement pour dormir, pour s'allonger, pour travailler, pour écouter la musique, voilà, une sorte de refuge, ou en tout cas une position allongée, voilà, une sorte de génération d'invertébrés.
En tout cas, là, ce que vous nous dites, Garant, c'est que cette étape et cette tristesse, elle est nécessaire et elle est le signe de ce travail de renoncement, et que c'est finalement un bon signe, même si en tant que parent, c'est inquiétant et c'est difficile à vivre.
Elle est normale. Ce passage est normal. Et je dirais qu'il nous montre l'inverse de ce qu'ils vivent à l'intérieur. C'est-à-dire que cet apparent relâchement, ennui, vient contrebalancer avec cette espèce d'ébullition, cette espèce de volcan en ébullition qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Et ils prennent quelque part à l'extérieur un peu le contre-pied de ce qu'ils vivent à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme s'ils prenaient un positionnement, de façon inconsciente, hein, à l'extérieur, qui viendrait un peu éteindre le feu qu'ils vivent à l'intérieur.
Ce qui est parfois rassurant par rapport à ce phénomène d'inquiétude, c'est que l'adolescent n'a pas nécessairement... Alors, je ne connais pas les ressorts psychologiques entre la vie intérieure et la vie extérieure pour l'adolescent. En revanche, on a parfois des retours du comportement de son adolescent dans le monde extérieur, autre que le foyer, et c'est parfois des signes assez rassurants. Ils peuvent se comporter différemment socialement, et donc on n'a pas l'impression d'avoir toujours les mêmes adolescents, en tout cas de voir des visages différents, mais c'est parfois rassurant de savoir que là où ils rejettent certaines règles de politesse, finalement, en société ou dans un cadre amical, ils se comportent différemment. C'est parfois assez rassurant.
Ils rejettent vos règles de politesse. Pas les règles de politesse.
Oui, pardon, ils rejettent mes règles de politesse.
Non, c'est pas mes affaires. Hein. Bah non, c'est pas mes Barbies.
C'est marrant.
Mais je vais pas ranger ces Barbies. Non, mais n'importe quoi, toi.
Elisa l'a joué aussi. Si je vais pas ranger les Barbies, je m'en fous.
Garance, souvent aussi, il y a toute la sphère émotionnelle qui peut être, les manifestations émotionnelles qui peuvent être évoquées par les parents et qu'on observe chez les adolescents. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, comme je l'évoquais, le monde interne de l'adolescent est un volcan en ébullition, hein, avec tout ce panel-là d'émotions qu'on va retrouver, en passant par l'irritabilité, la sensibilité, voire l'hypersensibilité. Hein. L'anxiété, c'est un moment aussi où les jeunes sont confrontés à beaucoup d'anxiété, voire beaucoup d'angoisse, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ils sentent qu'il y a beaucoup de choses qui changent en eux, mais ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qui ils vont devenir, ils ne savent plus qui ils sont. Et ça suscite souvent beaucoup d'anxiété. Hein. Il y a aussi, voilà, tous ces mécanismes, je dirais, de mise en acte où le corps va encore une fois prendre une part active dans le processus qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur. Les conflits, voire parfois les insultes, hein, les conflits ouverts, les fugues, ça peut exister aussi, hein, sont vraiment une tentative de reprendre la maîtrise sur le processus interne qu'ils sont en train de vivre et face auquel ils se sentent très impuissants.
Est-ce que c'est aussi ce qu'on peut voir à travers tout ce qu'on appelle les conduites à risque ?
Oui, alors je crois qu'il faut être prudente quand on parle de conduite à risque parce que la période de l'adolescence va être la période des premières expériences et des recherches d'expériences. Donc, les conduites à risque, au sens où les psys l'entendent, ont un caractère, je dirais, un petit peu plus inquiétant. Néanmoins, je peux peut-être vous citer quelques comportements qui, sans signer quelque chose de pathologique, doivent quand même alerter. Alors attention, les signes isolés ne sont pas significatifs. Hein, et il est important de prendre en compte, évidemment, l'évolution aussi de ces conduites dans le temps, leur intensité, etc. Mais par exemple, des comportements qui doivent alerter, en tout cas qui doivent peut-être nécessiter l'avis d'un spécialiste, sont les suivants. Donc il y a tous les comportements agressifs et destructeurs, qui iraient au-delà d'un conflit avec le parent, même un peu virulent. Il y a les comportements de retrait et d'isolement quand les adolescents en viennent à même plus côtoyer leurs amis. Ça, c'est des choses quand même auxquelles il faut être vigilant.
Oui, qu'au-delà finalement des comportements de rejet au sein de la famille, ce que vous disiez aussi Stéphane, dans ce qui pouvait vous rassurer à l'extérieur, voilà, si aussi à l'extérieur et dans leur groupe de pères, si là aussi il y a des modifications importantes de comportement, là ça doit d'autant plus alerter le parent.
Tout à fait, car il y a vraiment un retrait, un isolement social par rapport au père, là c'est quand même quelque chose qui doit alerter. L'hypersomnie, alors on sait que les adolescents dorment beaucoup, hein, mais pour certains adolescents plus inquiétants, il va y avoir un refuge dans le sommeil qui va les empêcher de faire quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont rester toute la journée au lit ou qui vont avoir des cycles inversés, qui vont rester réveillés toute la nuit et qui vont dormir toute la journée. Il y a aussi tout ce qui touche à la sphère alimentaire et aux problèmes en lien avec l'alimentation. Hein. À un niveau vraiment médical, il y a tous les retards de la courbe de poids et de croissance. Il y a aussi les conduites de certaines jeunes filles, parce que ça touche essentiellement les jeunes filles, qui touchent aux troubles du comportement alimentaire. Ça va se traduire par des frigos qui se vident systématiquement, des passages aux toilettes après chaque repas, un comptage drastique de calories associé à une hyperactivité physique et une hyperactivité intellectuelle. Voilà, tout ça, ce sont vraiment des...
Oui, là, ça m'évoque une maman qui me racontait que sa fille coupait tout en tout petits morceaux dans son assiette, voilà, qu'elle avait pu observer, voilà, aussi de cette manière-là qu'il pouvait y avoir des difficultés.
Tout à fait. Et puis, il y a aussi tout le rapport aux écrans qui inquiète aussi souvent beaucoup les parents. Hein. Je dirais que l'attrait des adolescents pour les écrans est de fait une évidence. Puisque ça va favoriser les liens qui ne sont pas des liens de chair, dans un moment justement où les contacts physiques sont un peu compliqués avec l'avènement de la sexualité, tout ça. Donc ça va être très pratique de pouvoir se faire plein d'amis via des réseaux sociaux sans qu'il y ait de contact de chair. Donc je dirais que l'attrait des adolescents pour les écrans est normal. Après, il y a un stade où ça va devoir inquiéter, c'est-à-dire encore une fois, c'est quand ils vont privilégier des contacts sur les réseaux sociaux et renoncer par exemple à une sortie entre copains. Ça va être l'utilisation des écrans, des jeux vidéo à outrance toute la nuit quand ils se mettent à regarder la télé et qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Voilà, là c'est des comportements qui doivent alerter et qui doivent inquiéter. En tout cas qui nécessitent la consultation d'un spécialiste.
La limitation de l'usage des écrans est quelque chose de bien difficile pour des parents, pour le père que je suis, qui moi-même suis un utilisateur d'écran, qui n'ait peut-être pas fait l'apprentissage ou le bon apprentissage de l'écran, et transmettre cet apprentissage aux ados, c'est pas simple, à une époque où ils ont beaucoup de tentations, des réseaux sociaux, des jeux vidéo pour les garçons, des chaînes qui dispensent du contenu en ligne, et parfois même très instructif. Hein. Mes ados, ils suivent des chaînes extrêmement didactiques, mais on a l'impression d'un puissant fond d'informations, et ils sont jamais allés jusqu'aux signaux que vous décrivez comme renoncer. Mais la gestion du temps d'écran, en tout cas pour le père que je suis, est un combat très très difficile, enfin, auquel il ne faut pas renoncer, et pourtant... Il est un peu peine perdue. Il est un peu peine perdue parce que
le contact de l'écran et de l'enfant, il est tellement simple, ou en tout cas, il a tellement été facilité que c'est quelque chose de difficile.
Là, Garance, vous nous disiez du coup les signes alertants pour les parents d'adolescents et finalement, voilà, cette frontière entre ce qui est de l'ordre du normal et parfois du pathologique, avant le pathologique, de l'inquiétant et parfois un petit peu difficile à identifier, à palper. Garance, quel conseil voilà, aux parents vous pourriez donner pour les aider voilà, à distinguer ce qui est du normal et de ce qui ne l'est plus? En tout cas, vous avez dit déjà d'être attentif justement au repli sur soi. Est-ce qu'il y a vraiment, voilà, dans les signes auxquels il faut faire particulièrement attention, est-ce qu'il y a un autre signe plus spécifique?
Alors oui, il y a des conduites qui vont d'emblée évoquer quelque chose d'inquiétant. Et là, où il ne faut pas se poser la question, il faut aller consulter. Hein. C'est toutes les attaques du corps, toutes les conduites agressives vis-à-vis du jeune lui-même, hein, les conduites auto-agressives, type scarification. Des choses comme ça qu'on observe beaucoup à l'adolescence, ça va être les idées suicidaires. Hein. Je crois qu'il faut jamais banaliser un jeune qui dit qu'il a envie de mourir, qui pense à la mort, même s'il dit qu'il le fera jamais. Le fait qu'il y pense, c'est signe quand même d'un mal-être profond. Les fugues à répétition. Hein. Les fugues à répétition et qui durent longtemps sont aussi des signes qui doivent alerter et qui doivent nécessiter quand même l'avis d'un spécialiste. En tout cas, ce sont des signes qui montrent que l'adolescent vit une souffrance qui dépasse la simple crise d'adolescence. Hein. Et puis, vous avez évidemment toutes les conduites addictives, hein, au cannabis, mais à des drogues plus fortes aussi. Je pense que c'est important de jamais banaliser, hein, des conduites de toxiques. Alors, bien évidemment, c'est l'âge des premières expériences également, donc ils vont pour la plupart se confronter aux premières cuites, éventuellement à goûter ce que c'est qu'un joint. C'est important, en tout cas si les parents en ont connaissance, de jamais banaliser même la première prise. Puisque, comme on l'évoquait en début d'interview, l'adolescent, il va être dans la recherche de limites. Et s'il sent que la réponse parentale ou adulte, en tout cas, va être banalisée, il va aller encore un peu plus loin pour la trouver. Hein. C'est-à-dire que si, il a fumé quelques joints, moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, on va pas en faire un plat. Bon, là, comment on va interpréter le jeune, c'est, ah tiens, ça lui fait rien, je vais monter d'un cran et puis je vais voir quelle est la réponse si là, je trouve quelque chose d'un peu plus ferme et surtout d'un peu plus rassurant.
Là, du coup, vous donnez un repère pour les parents d'adolescents. Quelles seraient, pour ces parents, les attitudes à adopter face, justement, aux conduites de leur adolescent, voilà, qu'elles soient normales et le signe de cette crise, de ce passage et de ce remaniement identitaire ou dans des situations plus inquiétantes?
Alors, peut-être tout d'abord, je tiens à préciser que le meilleur thermomètre pour évaluer l'inquiétude concernant les conduites d'un adolescent, c'est les parents eux-mêmes. C'est vraiment les meilleurs baromètres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont inquiets, il ne faut pas hésiter à aller demander l'avis d'un tiers.
En tout cas, Stéphane nous en a parlé d'un. En tout cas, vous avez, vous, Stéphane, dans les ressources que vous avez mobilisées, essayé de maintenir le contact, le dialogue, même si ça n'a pas toujours été simple. Voilà. Est-ce que ça, c'est un conseil que vous donneriez aux parents
Tout à fait. Ne jamais agir dans l'impulsivité, même si on sait que parfois c'est extrêmement difficile et qu'ils ont le don de nous pousser à bout. Mais ce qui est important, c'est de choisir le bon moment pour discuter. À froid, hors contexte, c'est mieux, hein, sans spectateur, pour éviter de blesser, donc sans la présence des copains, des frères et sœurs, de la famille. Il est important donc d'essayer vraiment de ne jamais agir sous le coup de l'impulsivité. Par exemple, si votre ado rentre ivre d'une soirée, il est préférable d'attendre le lendemain qu'il ait décuvé pour avoir une discussion avec lui. Évitez aussi les comparaisons blessantes avec les frères et sœurs notamment, ce qui est parfois une sorte de réflexe pour tenter de faire réagir l'ado. On se dit, si on le blesse un peu, peut-être qu'il va réagir et que ça va un peu le réveiller. Toute humiliation est blessante. Il faut savoir que vraiment l'humiliation renforce les conduites négatives, alors que les interdits les apaisent.
Un conseil que je donne souvent, moi, aux parents d'adolescents, c'est justement par rapport à cette question du regard que l'adulte peut porter sur l'adolescent, c'est de discuter en voiture, par exemple. En tout cas, voilà, d'être l'un à côté de l'autre, ça évite, voilà, que l'adolescent sente le regard de son parent sur lui. Et voilà, parfois, les longs trajets en voiture peuvent être justement propices à des reprises de contact et au dialogue, en tout cas.
Et en plus, ils peuvent pas s'échapper.
Tout à fait.
Je confirme que la voiture, c'est un magnifique moment. Voilà.
Peut-être autre chose, Mathilde. C'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux dans la relation parent-enfant à cet âge que de faire intervenir un tiers peut être parfois très utile. Alors, à tiers, ça peut être n'importe qui de confiance. Ça peut être l'oncle, ça peut être le médecin de famille, ça peut être la copine, une amie de la famille, voilà, quelqu'un en qui, un adulte en tout cas, en qui le jeune aurait confiance, en qui il pourrait se confier sans, justement, tous ces enjeux qu'il y a dans la relation.
Stéphane nous a aussi parlé, voilà, des difficultés au sein du couple parental et que les adolescents sont assez doués pour percevoir parfois le manque de cohérence ou de cohésion. En tout cas, il semblerait en effet que la concertation au sein du couple parental soit également très importante, en tout cas d'essayer que le père et la mère aient un positionnement commun.
Tout à fait. Alors, c'est pas toujours évident. Hein. Les parents ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord concernant l'éducation de leur enfant. Néanmoins, dans la mesure du possible, il faut que l'enfant n'en sache rien. Pourquoi ? Parce que c'est toujours très inquiétant pour un adolescent de voir que ses révoltes ont un effet dans la réalité. De sentir que, justement, vous disiez Stéphane, qu'ils ont le don pour venir tenter de créer des discordes entre les parents, mais en réalité, quand ils voient que ça a de l'effet, c'est très déstabilisant pour eux. Parce que ce qu'ils vont en permanence chercher à faire, c'est vérifier si leur environnement est suffisamment stable et suffisamment solide pour s'appuyer sur eux. Voilà.
Puis vous avez beaucoup parlé des questions du corps, voilà. Là, j'imagine l'importance pour les parents, voilà, comment ils peuvent apprendre à décoder les messages du corps.
En observant, principalement, vraiment en observant sans être intrusif. Hein, l'adolescent a besoin de son intimité et d'une intimité importante pour pouvoir grandir et devenir un adulte, sachant que c'est en plus un âge où justement, avec l'avènement de la sexualité, le rapprochement du corps de l'autre est très anxiogène. Donc, il va s'agir peut-être d'essayer d'observer vraiment à distance et dans la plus grande bienveillance comment l'adolescent va utiliser son corps, qui est encore une fois son moyen, je dirais, prépondérant d'expression à cet âge.
D'accord, merci Garance. Donc, en tout cas, dans tous les échanges qu'on vient d'avoir, voilà, l'adolescence est une période normale, nécessaire. Voilà, cette crise est aussi le signe d'un bon développement. Ça me semble quand même important de rappeler. C'est, voilà, aussi l'expérience que vous avez pu faire, Stéphane, avec votre fille Julie. Bah, aussi, pour une grande majorité des adolescents, cette période, elle se passe sans difficulté majeure. Voilà, pour d'autres, c'est plus difficile. Et voilà, dans ce cas-là, Garance, vous nous avez donné des repères pour justement essayer de comprendre et de l'importance d'aller chercher de l'aide lorsqu'il y a des choses qui vous inquiètent en tant que parent. C'est important de ne pas rester seul avec ça. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Alors, je ne sais pas, Stéphane, si pour vous aider, vous avez peut-être lu quelque chose ou si vous avez, voilà, un conseil de parent à donner.
En tout cas, mon conseil, ce que j'ai expérimenté avec mes enfants, c'est la musique. C'est l'ouverture à leur musique. Écouter et parler avec eux de leur musique. Ils écoutent des choses qui me semblaient inaudibles et qui, en fait, parfois révèlent beaucoup de poésie, beaucoup de symboles. Et ce sont des très bonnes ficelles sur lesquelles tirer pour comprendre ce qui les touche, ce qu'ils aiment dévoiler, ce qu'ils aiment.
Donc l'importance d'aller sur leur terrain à eux.
Voilà. Et s'ouvrir. S'ouvrir à un monde qui me paraissait un peu étrange. En tout cas, je pense au rap. Ça me paraissait très étrange.
Garance, est-ce que vous auriez, voilà, un livre ? Une lecture à recommander à des parents qui nous écoutent et qui se posent plein de questions avec leurs adolescents.
Alors peut-être un livre et un petit exercice, si on a encore un petit peu le temps. Un livre, je pense notamment à professeur Philippe Jamet, qui a beaucoup écrit sur l'adolescence, qui a écrit un livre qui s'appelle « Adolescence, repères pour les parents et les adolescents », et un second livre qui s'appelle « Pour nos adolescents, soyons adultes ». Voilà, ce seraient les deux ouvrages là auxquels je pense. Et puis, un petit exercice. Alors, apparemment, pas vous Stéphane, mais la plupart des parents sont bizarrement confrontés à une sorte d'amnésie de leur propre adolescence. Et je crois que quand on est parent d'adolescent, c'est tout à fait intéressant d'essayer de faire ce travail de remémoration de sa propre adolescence pour se rendre compte que nous aussi, nous sommes passés parfois par les tumultes de l'adolescence. Mais ça permet aussi de se rappeler que c'est une période transitoire où peut émerger aussi le meilleur, comme vous l'avez dit.
Merci Garance Bellamiche. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, que vous travaillez au pôle adolescent de la clinique Villa des Pages. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et de nous avoir éclairé sur le fonctionnement des adolescents. Merci aussi à vous Stéphane d'avoir témoigné de votre vécu de père d'adolescent, d'avoir partagé avec nous vos inquiétudes qui vous ont traversé, vos questions, vos difficultés, mais aussi voilà, tout ce que ça a pu vous apporter.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.